Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du 9 janvier au 6 février se tiendra la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2022, organisée au Cameroun pour savoir qui succédera à l'Algérie. L'occasion parfaite pour parler des plus grands joueurs issus du continent africain qui nous ont fait rêver, qui vous ont fait rêver au cours de leur carrière en club ou avec leur équipe nationale. Qui est l'homme dont vous gardez un souvenir impérissable, celui qui vous a donné le plus de frissons? En somme, quel est pour vous le plus grand footballeur africain? Difficile de n'en choisir qu'un, c'est pourtant ce que je vais demander à mes interlocuteurs du jour à travers ce podcast. C'est qui le plus fort? Je suis Seb Petit, journaliste pour Eurosport et je suis entouré de quatre confrères. Tout d'abord, Babacar Diarra, journaliste pour la BBC. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Cyril Morin, journaliste pour Eurosport.
Salut Seb.
Louis Gilles, journaliste également pour Eurosport.
Salut Seb, salut à tous.
Et Laurent Verne, qu'on ne présente plus, mais quand même, journaliste pour Eurosport.
Salut Seb, salut à tout le monde.
Bonjour messieurs, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Je me tourne d'abord vers Babacar. Babacar, tu as choisi un joueur égyptien, et non, il ne s'agit pas de Mohamed Salah.
Non, effectivement, Mohamed Salah, il n'a pas encore remporté la CAN d'ailleurs, donc c'est tout ce qu'on lui sait en tout cas du côté du Cameroun. Moi, j'ai choisi un joueur qui en a remporté quand même 4, Ahmed Hassan, il s'appelle ainsi. Il était attaquant, il a évolué dans plusieurs CAN, il en a remporté 4, mais sur deux aires différentes. Alors, en 1998, et il était plutôt jeune, mais il a quand même déjà brillé pour ses débuts dans ce tournoi en marquant en finale. C'était une époque où, pour moi, si vous voulez, ça évoque une époque où je voyais le foot africain que durant cette compétition, et notamment les joueurs égyptiens qui s'exportaient très peu. Et lui, après cette Coupe d'Afrique 1998, où les pharaons avaient battu l'Afrique du Sud, ils s'étaient exportés du côté de la Turquie, puis ensuite en Belgique. Et c'était plutôt rare, hein, franchement, de voir des Égyptiens aller en dehors du championnat local, qui est le plus fort, on peut le dire, hein, sur le continent, avec notamment le Al Ahly, qui a remporté le plus de Ligue des champions de la CAF. Alors, Ahmed Hassan, donc, il a remporté cette Coupe d'Afrique, et ensuite, il y a eu ce fameux triptyque des pharaons 2006, 2008, 2010, pour lequel il était capitaine pour ces éditions-là. C'était vraiment l'homme du coach Hassan Cheata, qui était une sorte de gourou avec sa moustache blanche. C'était vraiment un gars qui paraissait pas commode quand on le voyait sur le banc. D'ailleurs, à l'époque, celui qui était vraiment la star internationale du football égyptien, c'était Mido, mais il n'a jamais vraiment brillé dans des Coupes d'Afrique. Il a surtout disputé celle de 2006, où on se souvient d'une demi-finale où il était sorti un petit peu nerveux. D'ailleurs, ça avait chauffé, il n'avait pas joué la finale derrière. C'était un moment très fort de cette Coupe d'Afrique 2006. Et durant cette compétition, Ahmed Hassan avait été élu à l'époque meilleur joueur du tournoi. Il avait marqué notamment un penalty dans cette demi-finale dont je parlais il y a quelques secondes contre le Sénégal. Il avait manqué un penalty en finale ensuite, mais à chaque fois il y avait ces controverses autour de cette demi-finale, de la finale, parce que l'Égypte évoluait à domicile, l'arbitrage était un peu douteux. Donc pour moi, ça évoque pas mal de souvenirs, parce que bon, je vais le dire, je vais le confier tout de suite, je suis d'origine sénégalaise et ce sont des très mauvais souvenirs, hein. C'était cette Égypte 2006, 2008, 2010, c'est une équipe que j'ai détestée en fait. Hein. En réalité, c'est un traumatisme pour moi de parler de ce joueur, Ahmed Hassan.
Une sorte de thérapie pour toi aujourd'hui, quoi.
Voilà, exactement. Mais ça reste quand même un joueur majeur du football africain. Alors derrière, il y a eu la CAN 2008 où il était encore une fois capitaine. Ce n'est pas sa meilleure CAN. Il arrivait, on va dire, très peu en confiance parce que du côté de la Belgique, avec Anderlecht, ça se passait mal. D'ailleurs, derrière cette CAN, il est retourné dans le championnat local. Ce n'est pas sa meilleure compétition. Et du coup, en 2010, il arrivait donc toujours avec le brassard sur lui, mais assez âgé. Je crois qu'il avait autour de 34-35 ans. Et il arrive dans cette compétition. Bon, on sait qu'il a l'expérience, mais on ne s'attend pas à ce qu'il soit l'un des leaders de son équipe. Et pourtant, il a encore une fois terminé meilleur joueur du tournoi. Encore une fois, c'est un tournoi où l'Égypte gagne. Et à l'époque, l'équipe qui était attendue, c'était le Ghana, qui était revanchard parce que le Ghana avait perdu en demi-finale, si je ne dis pas de bêtises, la compétition chez elle 2 ans plus tôt. Et l'Égypte et le Ghana s'étaient retrouvés en finale. Et dans un match très très disputé, très compliqué, avec peu d'occasions, vraiment fermé. Donc l'Égypte s'était imposée. Et encore une fois, c'était le leader Ahmed Hassan qui avait porté cette équipe. Il n'avait pas marqué hein, pour cette finale, mais il
Mais
avait quand même porté cette équipe jusqu'à la victoire. Et puis Ahmed Hassan.
dis-moi, Babacar, au-delà du palmarès effectivement long comme le bras et du fait qu'il a été 2 fois meilleur joueur de la CAN, qu'est-ce que chez lui tu retiens de particulier? Pourquoi est-ce que ce joueur-là en fait t'a marqué, surtout qu'il t'a laissé apparemment de mauvais souvenirs?
Bon, c'est comme on parle d'une équipe où il y avait, comme j'ai évoqué, Mido qui n'était pas, il était une star internationale, mais il ne brillait pas. Il y avait toujours ces leaders qui étaient là pour mettre la pression sur les arbitres, parce que ça s'est joué souvent sur des choses comme ça, pour aller s'arracher, pour vraiment mettre le pressing, pour porter enfin, pour emmener ses coéquipiers au niveau du pressing, au niveau de tout ce qui est, on le sait, hein, on ne va pas se mentir, il y a ce côté truqueur chez les Égyptiens dans le jeu, dans les grandes affiches comme cela.
Ça y
À
est, ça
l'époque,
balance.
ah ben, il faut le dire, c'est vraiment dans ce triptyque-là, 2006, 2008, 2010, c'est des souvenirs dont tout le monde se souvient. Hein. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Ils ont réussi à s'en sortir, à l'emporter. Et là-dessus, il était très, très bon. Et puis aussi,
Cyril,
sur
ça te parle, toi, Cyril, les années 2006,
Ouais, mais
2000,
justement,
2010?
j'allais poser une question à Babacar sur.
Ouais.
Alors, tu as fait le choix du symbole de cette équipe-là. En fait, est-ce que finalement, pour toi, cette Égypte-là, ce ne serait pas la plus grande équipe africaine de l'histoire? C'est ce qui transpire un petit peu de ce que tu nous racontes là.
Oui, c'est pour le coup parce qu'il y avait à peu près la même structure,
Ouais.
la même colonne vertébrale dans toutes ces compétitions. Il y avait Mohamed Abou Treika, qui est un des milieux
Souviens-moi.
phares de cette époque. Il y a un gardien qu'on a vu jusqu'en 2018, où il est devenu le joueur le plus âgé à disputer la Coupe du Monde, et Sam El Haïdari. Ces joueurs-là, c'est vraiment des légendes en Égypte. Hein. Et même sur le continent, ils ont tenu quand même pendant 3 ans, ils ont réussi à répéter cette performance, ce qui n'a jamais été vu avant ni et
Ouais.
toujours pas après. Donc c'est assez fort ce qu'ils ont réalisé à l'époque, et effectivement, c'est une des équipes les plus légendaires du football africain, sans aucun doute.
Quand on évoque le plus grand joueur africain, pour toi, Laurent, un nom était une évidence, c'était Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui, pour toi, en fait un joueur incontournable?
À la fois le joueur qu'il était et le palmarès qui a été le sien. Pour moi, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec oui, sur le compromis puissance, finesse technique, explosivité, vitesse. Je pense que Georges Weah était au-dessus. En revanche, je pense que Eto'o qui était également un joueur extrêmement complet, hein, très très bon technicien, puissant, même s'il n'a pas la carrure d'un Georges Weah, c'est un joueur plus longiligne, mais il avait quand même beaucoup de puissance, il était très rapide, mais il était aussi extrêmement efficace quand même dans ses meilleures années devant le but, plus à mon avis que ne l'était Georges Weah, qui est un joueur qui a mis des buts extraordinaires, qui a marqué beaucoup de buts, mais qui, à mes yeux, pêchait parfois un petit peu dans la finition, ce qui n'était pas le cas de Samuel Eto'o. Puis Eto'o, moi j'aimais beaucoup le personnage, c'est-à-dire quelqu'un qui est conscient de ce qu'il était, de ses qualités, de sa place dans l'histoire du football africain, et qui l'assumait. C'est quelqu'un qui avait un ego surdimensionné. Moi, je disais, il a un ego plus grand que l'Afrique, mais derrière, ça suivait, quoi. Et moi, j'aime bien les personnages comme ça dans l'histoire du sport, un petit peu à la Bernard Hinault, qui arrivait le matin au départ d'une course, qui disait « aujourd'hui, je gagne », et 9 fois sur 10, quand il disait ça, il gagnait l'après-midi. Donc, moi, c'est ce que j'aimais beaucoup chez Samuel Eto'o. Et puis après, je pense qu'il y a quand même très peu de joueurs africains qui ont connu une telle carrière en club et dans des plus grands clubs. Et pour parler un tout petit peu palmarès, c'est quand même, on ne parle pas que de joueurs africains, mais de joueurs tout court. C'est le seul joueur dans l'histoire à avoir fait 2 triplés de suite, Ligue des Champions, Championnat National, Coupe Nationale, 2 années de suite avec 2 clubs différents. Donc ça vous pose quand même un bonhomme. Et pour moi, son départ à l'Inter en 2009, a vraiment contribué à grandir sa carrière parce que donc il a tous ses titres, ses 2 Ligues des Champions avec le Barça. Il était un joueur très important du Barça, mais c'était déjà quand même l'équipe de Lionel Messi. Et on pouvait se dire qu'il était d'une certaine manière le produit d'un système. Sauf qu'en allant à l'Inter en 2009, et où il va donc gagner la Ligue des Champions, la Serie A plus la Coupe d'Italie, ben là, cet argument-là ne tenait plus. Donc, il était, lui, non pas le fruit d'un système, mais il en était peut-être le cœur et le moteur. Et d'ailleurs, pour moi, le plus grand moment de la carrière de Samuel Eto'o, en tout cas celui que je retiens en priorité, c'est pas un but, c'est pas un exploit technique, c'est un match. Et c'est la demi-finale retour de Ligue des Champions en 2010, où l'Inter va jouer au Camp Nou contre le Barça. Et ce jour-là, par la force des circonstances, il va se retrouver à jouer dans un rôle complètement inhabituel pour lui, puisque José Mourinho va lui demander de se sacrifier tout simplement pour l'équipe. Il va passer les 3/4 du match au poste quasiment d'arrière-gauche. Il va défendre comme un chien. Et pour moi, ce moment-là, c'est vraiment le symbole qu'on peut avoir un ego surdimensionné et le sens du sacrifice. Et je ne suis pas sûr que tous les grands attaquants dans l'histoire du football, il y a quelques noms qui me viennent en tête, mais je ne les dirai pas pour me fâcher avec personne, mais je ne suis pas sûr que tout le monde aurait été capable de faire ça.
Et donc, après, pour moi, c'est... D'après ce que tu énumères, il y a quand même une ombre qui reste quand même au tableau, c'est le fait qu'il n'ait jamais eu le ballon d'or, en fait. C'est son grand manque et son grand regret aussi, quelque part.
Oui, alors moi, je n'y attache pas. Enfin, pour moi, il aurait eu le ballon d'or. Il ne serait pas plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce n'est pas un critère pour moi pour considérer qui est le meilleur joueur africain de l'histoire parce qu'il y a une affaire de contexte aussi. Et Samuel Eto'o, il a quand même aussi payé très vite la puissance de Lionel Messi, puis de Cristiano Ronaldo dans ce domaine-là. Donc, s'il y a une ombre, à mon avis, au tableau dans la carrière de Samuel Eto'o, elle est plus au niveau de la sélection nationale et plus précisément de la Coupe du Monde, parce que c'est quand même un joueur qui, très jeune, je crois qu'à 21 ou 22 ans, il avait déjà gagné 2 Cannes et il avait été champion olympique. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et le doublé Cannes-Jeux olympiques en 2000, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est aussi un joueur qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Cannes. Donc, individuellement, on ne peut pas dire qu'il soit passé à côté. Puis il a jamais délaissé la sélection. En revanche, c'est vrai que le Cameroun, avec la génération que ce pays a possédée pendant de très nombreuses années, Eto'o, c'est 4 participations à la Coupe du Monde, je crois 4 éliminations au premier tour. Collectivement, ils n'ont pas été bons. Individuellement, il ne s'est jamais exprimé comme il a su le faire en club. Donc, le point noir, il est peut-être là. Il est même certainement là. Mais malgré tout, je pense que voilà, le joueur extraordinaire qu'il était et tout ce qu'il a accompli par ailleurs, en club ou au début de sa carrière en sélection, font que pour moi, c'est vraiment très, très difficile de ne pas penser à lui.
En tout cas, en attaquant qui se respecte, c'était effectivement une machine à but. Hein. Il en a marqué quasiment 500 dans sa carrière. 482 pour être très précis. Il y en a un que tu as envie de retenir particulièrement, je sais pas, il y en a qui vous a marqué particulièrement ou pas, messieurs?
Moi j'en ai une, mais alors c'est plus pour revenir sur le personnage Samuel Eto'o fils. Ouais. Moi je me souviens de son arrivée à Chelsea en fin de carrière où effectivement il a un peu fatigué, enfin fatigué, il est usé par le poids des années, c'est plus exactement le même attaquant
explosif. Ouais, il a 30, 33 ans, je crois.
Voilà, c'est plus l'attaquant explosif qu'on a connu au Barça, où moi je suis d'accord avec Laurent, en termes d'attaquant complet à cette époque-là, je ne sais pas si on fait beaucoup mieux que lui. Et il y a cette célébration incroyable où, grosso modo, Mourinho fait un faux off avant avec Canal+, en disant voilà, j'ai une équipe de vieillards. Il fait comprendre qu'il vit Samuel Eto'o. Il y a cette célébration qui est pour moi mythique où derrière il marque et il mime ce vieillard. C'est tout le personnage Eto'o de ce que disait Laurent. Il sait ce qu'il vaut et il assume de le dire. Et je pense que dans les responsabilités qu'il a désormais aujourd'hui en Afrique, ça dépasse aussi le cadre du terrain. Voilà, c'est un personnage, comme on dit. Et bah, moi aussi, voilà, quand on a préparé cette émission, j'hésitais fortement entre Wea et Eto'o, et voilà, Eto'o, c'est quand même c'est un vrai client, et c'est un des plus grands joueurs qu'il y a eu dans la décennie 2010 assez largement, quoi.
Et toi, ouais, Louis, qui est plus jeune, voilà, de la bande, Eto'o, ouais, ça
parle, on parle d'Eto'o, de sa grandeur et de sa fierté. Ce que pour rejoindre ce que dit Cyril, il voulait être jugé à la valeur à laquelle il s'estimait, et c'est aussi pour ça que son départ de l'Inter s'explique. Et son arrivée à Lendi Makhachkala, cette espèce de club russe qui n'a pas duré très longtemps, dans lequel il était le meilleur joueur, enfin le joueur le mieux payé de l'histoire à ce moment-là. C'est sûr que ça a aidé son choix de savoir qui serait à ce moment-là le joueur le mieux payé de l'histoire, de « je suis le plus grand ». Voilà, c'est en dehors du sportif, c'est un personnage, et c'est sûr que sa grandeur se mesure aussi à ses choix.
Moi, j'ai peut-être une question pour Babacar sur l'après-carrière et ce que devient Eto'o aujourd'hui. On en parlera après, mais c'est vrai que Georges Weah, il y a aussi ça qui rentre en compte, moi, dans mon appréciation. On sait qu'il a pris des responsabilités récemment. Qu'est-ce qui se dit, en fait, de Samuel Eto'o actuellement sur le continent africain? Est-ce que c'est l'homme fort du football africain, tout simplement?
Samuel Eto'o, quand il se déplace, c'est presque un chef d'État. Hein. On ne va pas se mentir. La parole de Samuel Eto'o, elle est toujours très attendue où qu'il aille. J'avais eu l'occasion d'être là pour une cérémonie des remises de prix de la CAF. C'était du côté de Dakar. Il était venu faire une conférence de presse où il avait dit en gros que le problème du football africain, même des Africains, c'est eux-mêmes, quoi. Et que c'est aux Africains de se prendre eux-mêmes en charge, de ne pas attendre. C'était évidemment une référence au fait que le Ballon d'Or n'était pas attribué à des joueurs du continent. Voilà, c'est aux joueurs de se responsabiliser et même aux institutions, que ce soit les fédérations notamment africaines, de se mettre en valeur elles-mêmes, quoi. Et ce n'est pas étonnant que derrière, il ait candidaté pour être président de l'Africa Foot. Et d'ailleurs, dans le déroulement de cette élection, on a pu voir qu'il sait jouer au niveau politique, il sait comment ça marche, les rouages de ce genre d'élection. Il ne voulait pas se faire avoir, il a vraiment tout contrôlé, et ce n'est pas étonnant que ce soit passé comme il le désirait, parce qu'il avait vraiment tout anticipé. Et le jour même, il n'était pas encore satisfait du déroulement de l'élection, il s'est fait voir devant ceux qui organisaient cette élection, et évidemment ça s'est déroulé parfaitement comme il l'avait souhaité.
Louis ?
Ouais, juste pour répondre à ta question de tout à l'heure sur comment la jeune génération dans laquelle je fais partie voit le personnage de Samuel Eto'o, moi je pense qu'il y a, en dehors du terrain, il y a une image très forte de la carrière de Samuel Eto'o, c'est cette interview il y a quelques années pour un média français qui est devenu culte, dans laquelle il retrace sa carrière, et notamment le passage dont on parlait tout à l'heure de la fin de son aventure au Barça et son arrivée à l'Inter, dans laquelle il dézingue Guardiola, et il dit, ouais, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, mais il explique que quand Guardiola a voulu, en arrivant au Barça, a voulu se débarrasser de Deco, Ronaldinho, Eto'o, etc., il lui a dit droit dans les yeux, voilà, respecte les grands joueurs, car tu n'as jamais été un grand joueur, ça participe au culte du personnage. Voilà, c'est un franc-parler et une estime de soi au-dessus de la moyenne.
On parlait d'un Samuel Eto'o qui était quasiment un homme d'État. Il y en a un qui est devenu, c'est Georges Weah, président du Liberia. C'est assez incroyable que ça puisse paraître. Il est président depuis quelques années maintenant. Et Cyril, c'était le joueur dont tu voulais parler.
Ouais, c'est un peu la statue du commandeur, on va dire. En fait, moi, je n'ai pas de souvenir précis de Georges Weah qui joue au football. J'étais trop jeune à l'époque pour suivre ça, donc c'est pas tellement ça qui a guidé ma réflexion. Comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt Samuel Eto'o qui rentrait en ligne de compte, mais c'est vrai que il y avait toujours cette figure un peu voilà, au-dessus paternelle. Enfin, c'est le précurseur, en fait, tout simplement, Georges Weah. Alors, on reviendra sans doute en détail sur son Ballon d'Or 95, mais mine de rien, ça joue encore aujourd'hui. On sait que la place de l'Afrique dans ses récompenses, qui ont beau être honorifiques, qui comptent quand même un petit peu, notamment pour les joueurs, on en revient toujours à lui, a réussi à le faire en 95, là où d'autres n'ont pas réussi à le faire et ça continue de susciter des polémiques. Il suffit de reprendre l'exemple d'Edouard Mendy récemment pour s'en rendre compte. Donc, il y a eu ça. Et puis, même dans son style de jeu, dans les images que j'ai pu avoir un peu après, il y avait quand même un côté très moderne. Voilà, Laurent a parlé de sa puissance, de sa virtuosité quand même. Voilà, c'est un attaquant qui était dans les années 90, mais qui aurait pu déjà jouer dans les années 2000, à mes yeux. Donc, il y a eu un peu de tout ça. Alors, ce qui a aussi joué, à mes yeux, là où pour Drogba et Eto'o, ce que disait Laurent avec cette absence de grands titres à la CAN, alors qu'ils avaient des équipes quand même qui auraient dû les gagner. Voilà, Georges Weah avec le Liberia, ne serait-ce que participer, c'était déjà une grande, grande réussite. Donc voilà, et puis il y a ce personnage public qu'il est devenu après, qui rentre en compte. Donc c'est un peu plus pour l'image tutélaire qu'il représente que pour ce que j'en ai vu et ce que j'en ai connu. Mais voilà, quand on parle du plus grand joueur africain de l'histoire, et c'est ce que France Football avait fait ce classement en 2019 en interrogeant notamment des spécialistes, ils avaient mis Weah devant parce que pour l'instant, difficile de voir un joueur qui représente plus le continent africain que Georges Weah à mes yeux.
Georges Weah, d'abord, il faut rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Claude Leroy, qui est immense connaisseur du football africain et qui a contribué à découvrir et à amener en France énormément de talents. Et ça a été notamment le cas de Georges Weah, qui a débuté au Liberia et qui après est parti, je crois que c'était au Tonnerre de Yaoundé, si je ne me trompe pas. Voilà. Et c'est là que Claude Leroy l'a découvert. Et donc, il doit une partie de sa carrière à Claude Leroy. Et
l'appelle son deuxième papa.
Ouais, c'est... Je pense qu'il y a quelques joueurs africains qui pourraient dire ça, mais c'est tout particulièrement vrai pour lui. Et moi, je me souviens vraiment très bien des débuts de Georges Weah avec Monaco. Et il était... c'était pas un tout, tout jeune joueur. Il avait 22 ans, je crois, quand il arrive en France. C'est jeune, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas arrivé en France à 17-18 ans. Et ce qui m'avait frappé vraiment, mais tout de suite, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'était, on disait, mais il a tout, il a absolument tout. Une puissance dévastatrice, il était très explosif, il était très rapide aussi. Et puis, une finesse technique qui contrastait avec ce corps très charpenté. C'était un molosse, hein, Georges Weah. Mais quand il avait le ballon dans les pieds, il pouvait être d'une finesse extrême ou d'une puissance totale. Et c'est ça qui était fantastique. Alors après, évidemment, on sentait que c'était un joueur, c'était un diamant qui avait besoin d'être poli. Et il l'a été au fil des années. Mais oui, Weah, c'était quand même vraiment... je pense que tout le monde le craignait, quoi, parce qu'il était capable de tout. Après, ça n'a pas été le joueur le plus régulier de l'histoire du football, ça c'est sûr. Et moi, je me souviens par exemple de sa saison au PSG en 94-95, l'année où le PSG va en demi-finale, où il marque ce but qui est probablement un des deux buts les plus célèbres de sa carrière, l'autre étant celui avec le Milan contre Vérone, on en parlera peut-être après, dans deux registres d'ailleurs très différents.
Il y a peut-être aussi celui de Munich. Quand même.
Mais c'est celui dont j'allais parler.
Ah, pardon, excusez-moi.
C'est l'année où il marque ce fameux but à Munich contre le Bayern en phase de poule. Cette année-là, il marque, je crois, 6 buts en Ligue des Champions et je pense qu'il ne doit pas en marquer plus en Ligue 1. Donc, on ne va pas dire qu'il choisissait ses matchs, le Mr. George, mais ce n'était pas un joueur à 30 buts par saison. Il était un peu plus absent certains week-ends, mais dans les grands matchs, il répondait quand même très, très souvent présent. Et puis, évidemment, il y a le personnage qu'il est devenu après. C'est vrai, Cyril a raison. C'est pas commun quand même de devenir chef d'État quand on a été sportif de haut niveau.
C'est vrai qu'il remporte en 95 le Ballon d'Or. C'était le premier joueur non-européen à remporter ce trophée. Et à mon connaissance, le seul originaire du continent africain, Papa Cartume.
Oui.
C'était quand même un événement à l'époque.
Ouais, tu parlais d'événements, ça l'est toujours des années après. En fait, on en revient à la place de l'Afrique dans ses distinctions individuelles. Moi, j'ai pas souvenir d'un Africain qui soit arrivé très très proche de remporter ce ballon d'or-là. On parlait de Samuel Eto'o tout à l'heure.
Je crois qu'il a été cinquième.
Cinquième en 2009.
Mais il n'y a jamais eu vraiment de suspense sur le fait que Samuel Eto'o soit ou non ballon d'or. Donc forcément, ça joue. Et je trouve que ça aussi, ça illustre la trace qu'il laisse. Il sera pour toujours dans les livres d'histoire. Pour cette chose-là, ça peut paraître anecdotique et il peut y avoir beaucoup de débats autour du ballon d'or. Il n'empêche que ce sera toujours le premier, quoi qu'il arrive. Et pour l'instant, on ne voit pas un successeur pointer le bout de son nez, même si Mo Salah semble cocher quelques cases.
Alors, on espère que ce ne sera plus le seul. Quoi. Voilà, dans les années à venir, ça tend vers ça, en tout cas.
Donc Weah, il est passé par Monaco, Paris et Marseille en France notamment, et Chelsea. Et un autre joueur est passé aussi par le Vélodrome et par Stamford Bridge. Vous me voyez venir, en y laissant une trace bien plus importante, c'est Didier Drogba. Oui, l'Ivoirien est pour toi le joueur africain qui t'a le plus marqué. Alors explique-nous ton choix.
Ouais, parce que quand on parle du plus grand joueur, c'est pas uniquement sur le terrain que ce qualificatif vient s'apporter. Et Didier Drogba, c'est un immense footballeur sur et en dehors du terrain. Voilà, celui qui a aujourd'hui 43 ans. Il a éclos assez tard aux yeux du grand public. Et bon, son palmarès, enfin, du côté sportif, son palmarès, il est peut-être pas aussi grand que celui de Samuel Eto'o, mais il parle pour lui quand même. Il gagne une Ligue des Champions, il gagne 4 fois le championnat d'Angleterre, pareil avec des périodes différentes. Il gagne pas de trophée avec sa sélection, mais il va 2 fois en finale de la CAN. Il est meilleur buteur d'une édition de la CAN en 2012. Il marque l'histoire de tous les clubs où il passe. Et c'est vrai que ça sportivement, son apogée, c'est en 2012, cette campagne de Ligue des Champions avec Chelsea, où pas à lui tout seul, mais avec son équipe de Chelsea, qui n'est vraiment pas favorite sur le papier. D'abord, en demi-finale, ils sortent le grand Barça de Guardiola, qui vient de tout remporter, 7 titres en un an ou quelque chose comme ça, à la régulière, en demi-finale. C'est lui qui marque le but du 1-0 à l'aller et au match retour, on parlait de sacrifice pour son équipe. Il joue quasiment 70 minutes à latéral droit au Camp Nou face à Chelsea. Et en finale, voilà, son équipe perd 1-0 et à la 88e, c'est lui qui vient mettre le coup de tête vainqueur, puis marquer le 5e tir au but en finale. Voilà, fin, cette Ligue des Champions, elle est étiquetée Didier Drogba. Et en dehors du sport, c'est aussi un personnage qui a toujours fait le maximum pour son pays. Voilà, en 2007, en 2006, avec la Côte d'Ivoire, il va pour la première fois à la Coupe du Monde. C'est la première fois pour l'histoire du pays. Et alors que le pays traverse une crise politico-militaire assez importante, à son initiative, les joueurs de la sélection nationale appellent à la paix sur le territoire, etc. En 2007, il crée une fondation pour l'éducation et la santé en Afrique, dont qu'il alimente avec ses gains publicitaires, etc. C'est un joueur qui est dans la générosité et qui, là récemment, est aussi ambassadeur de l'OMS pour le sport et la santé. Enfin, c'est un personnage qui va au-delà de son statut sportif dans son engagement. Il n'est pas politisé, mais il est engagé. Et c'est un combat qui en fait un grand homme. Voilà. Et puis, il y a ce rapport qu'il entretient avec le public. Voilà, de partout où il passe, il y a un amour immense pour lui. À Marseille, depuis qu'il est parti en 2004, je pense qu'il n'y a pas eu une, il y a presque pas eu une période de mercato où les supporters marseillais ont espéré son retour. En 2008, ils avaient même lancé le drogue-bâton, voilà, en collectant des fonds pour aider le club à le recruter à nouveau. Et à Chelsea, c'est pareil. Voilà, il a marqué l'histoire du club. Et en 2016, les fans eux-mêmes l'ont élu plus grand joueur de l'histoire de Chelsea, alors qu'il y avait quand même Lampard, Terry, Zola dans les prétendants. Donc c'est une légende et c'est peut-être pas le plus grand palmarès du football africain, mais c'est peut-être quand même le plus grand footballeur, en tout cas, ou un immense homme africain et footballeur.
Est-ce que toi, Babacar, tu vois un amour aussi inestimable à ce Didier Drogba, toi qui es sénégalais?
Drogba, effectivement, il est très respecté sur le continent africain. Il y a quelque chose qu'il ne va jamais avouer publiquement, mais qui est terrible pour lui, c'est que quand il a pris sa retraite internationale, la CAN qui a succédé à sa retraite internationale a été remportée par les Ivoiriens. Il aurait pu en être, parce qu'il a continué à jouer en club, certes dans des clubs très exotiques. Il aurait pu être dans cette formation qui était à l'époque guidée par et à Touré, et ça aurait été une fin parfaite pour lui parce que la CAN qui avait notamment marqué les esprits, c'est celle où il avait manqué un penalty en finale face à la Zambie dans la séance de tir au but. Et c'était évidemment terrible pour lui. C'était un très mauvais souvenir. Et évidemment, on sait qu'il a énormément apporté dans cette ère Yaya Touré, les Kolo Touré, etc., qui les a amenés en Coupe du Monde. Mais il lui manquera toujours ce trophée au palmarès et ça sera toujours une tâche dans sa carrière internationale.
C'est vrai que le football ivoirien aussi est marqué par Yaya Touré aussi, qui revenait souvent dans les joueurs issus du continent africain qui ont marqué. Est-ce que ce nom aussi vous évoque quelque chose?
Ouais, mais à mes yeux, ça reste inférieur à ce qu'a fait Didier Drogba avec l'équipe de Côte d'Ivoire et même de manière générale. Je pense que si vous demandez aux spécialistes de Première Ligue, Yaya Touré, il y a 2-3 saisons où il survole vraiment le championnat. Drogba à Chelsea, ça fait partie des 5-10 meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue depuis 92. Je sais qu'on tient cet astérix-là. Donc,
Et oui, il y a eu de la vie avant 1992, ouais, même si je sais que
c'est une année importante pour toi. Voilà. Non, mais pour revenir au cas Yaya Touré, excellent footballeur, mais il incarne à mes yeux beaucoup moins les éléphants que n'a pu le faire Didier Drogba.
Et c'est là qu'on voit la limite des distinctions individuelles, parce que le Yaya Touré, il a été 4 fois meilleur joueur africain de l'année, Didier Drogba que 2 fois. Et pourtant, Drogba, c'est ce que tu dis, Cyril, ça reste au-dessus. Il a été 4e au Ballon d'Or, lui, en 2007, meilleur buteur de sa sélection, capitaine depuis de 2006 à 2012, voire plus, sa carrière internationale. Il lui manque un trophée, mais c'est un joueur imparfait, et je pense que ça rentre. Ça le fait rentrer aussi dans l'histoire du côté, voilà, il est imparfait, je veux dire, en finale avec Chelsea, en finale de Ligue des Champions, avant de la gagner en 2012, il en dispute une en 2008, où il prend un carton rouge en finale, c'est sûr que ça joue, parce que c'est son équipe perd au tir au but, et bah, ce même parallèle-là en 2012 avec la sélection, où il rate le pénalty qui aurait pu donner le titre qui lui manquait, ça le rend humain en fait, voilà.
Pour moi, Drogba, il y a un mot qui me vient à l'esprit quand je pense à lui, c'est charisme. Pour moi, c'est vraiment un personnage ultra charismatique, avec une gueule. Ça, c'est un mec qui était beau sur le terrain et ouais, il dégageait quelque chose. Et ça s'est senti très, très vite quand même. Et c'est vrai, tu en parlais, Louis, c'est quand même rappeler, tu parlais de son émergence tardive. Je crois que quand il quitte Le Mans, il a 24 ans et il va à Guingamp. Donc, c'est quand même une trajectoire qui n'est pas commune. Et si on lui avait dit à 23, 24 ans qu'il aurait ce destin-là, qu'il deviendrait une idole absolue dans deux clubs différents, c'est quand même pas commun non plus. Des clubs aussi différents que le sudiste olympique de Marseille et ce club londonien de Chelsea. À Marseille, il ne reste qu'une année. Je connais peu de joueurs quand même dans l'histoire du football qui ont autant marqué un club et un grand club. On peut penser ce qu'on veut de l'Olympique de Marseille, mais il y a quand même une guirlande de très grands joueurs et de très grands champions qui sont passés dans ce club au fil des décennies. Et lui, il est resté une année. C'était il y a presque 20 ans maintenant, bientôt 20 ans. Et ça a marqué comme peu de joueurs ont marqué leur passage sur la Canebière. Et puis après, oui, ce qu'il a fait à Chelsea, c'est exceptionnel. Et pour moi, vraiment, cette campagne 2012 et cette finale 2012 contre le Bayern, c'est le paroxysme et la meilleure expression de ce leader exceptionnel et de ce personnage charismatique.
Bon, on n'y avait pas que ces légendes-là, bien évidemment, qui ont écrit l'histoire du football africain. On aurait pu aussi parler de Roger Milla, ou Salif Keita, ou d'autres grands joueurs qui ont marqué plusieurs générations. Vous avez peut-être d'autres exemples en tête?
Moi, j'ai une question pour Babacar. C'est le meilleur joueur, le plus grand joueur sénégalais de l'histoire, c'est qui pour toi?
Autoproclamé ou selon moi?
Autoproclamé, c'est El Hadji Diouf.
El Hadji Diouf, voilà. Il est obligé de le citer, sinon, s'il entend ce podcast,
ouais. il te parlera plus après.
Voilà, mais sinon, on ne peut pas ne pas citer Sadio Mané pour ce qu'il fait avec Liverpool. Je ne pense pas qu'il y ait un autre joueur sénégalais qui ait brillé aussi longtemps dans un grand club. Peut-être qu'Edouard Mendy, s'il arrive à durer du côté de Chelsea, pourra, parce que lui aussi, il a gagné avec des champions comme Sadio Mané, pourra peut-être rivaliser dans ce débat du meilleur joueur sénégalais. Mais aujourd'hui, Sadio Mané, Il n'y a aucun doute que ce qu'il a réalisé déjà, ça lui permet d'obtenir ce statut de meilleur joueur du Sénégal dans l'histoire.
Et pourtant, tu sais qu'Aladji Diouf avait dit, donc, comme tu le dis, autoproclamé, le plus grand, c'est moi. Et il dit, le jour où un Sénégalais aura gagné 3 ou 4 fois le Ballon d'Or, on pourra en reparler. Donc, il a mis la barre assez haut quand même.
Hein. Oui, bien sûr. C'est donné de la marge.
À l'avenir, moi, j'avais une autre question pour Babacar. Est-ce que le cas Mo Salah, c'est un peu l'espoir de voir enfin le successeur de George Weah? Est-ce que c'est quelque chose dont on débat beaucoup en Afrique, ou est-ce que c'est un sujet uniquement égyptien d'ailleurs? Comment est perçu Mo Salah en fait?
Et est-ce que c'est si important que ça, oui, vraiment que si, ouais. pour vous les Africains, qu'il y ait un nouveau Ballon d'Or? Est-ce que c'est un vrai sujet?
Oui, c'est très mal. Les Africains en général ont du mal à digérer au niveau de la presse africaine notamment. C'est quelque chose qui est très mal digéré. Ça revient très régulièrement dans les débats autour d'Edouard Mendy. Là, on ne parle même pas de Ballon d'Or, mais juste de meilleur gardien. Au monde, ça a été très très mal vécu, le fait que Donnarumma, qui a certes remporté l'Euro, mais qui n'a pas réalisé une saison fabuleuse avec l'AC Milan, et puis qui en plus n'est pas titulaire indiscutable avec le PSG pour des raisons que l'on sait. Edouard Mendy, lui, il a remporté avec des champions avec un certain nombre de clean sheets, 9. Forcément, c'est difficile à comprendre sur le continent, pas qu'au Sénégal, hein, vraiment sur le continent, qu'il n'ait pas obtenu ce trophée. D'ailleurs, il y a le trophée The Best hein, qui va être attribué. Il est encore une fois nominé. Et sur le continent, on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne et qu'il obtiendra enfin ce trophée qui est certes symbolique, hein, mais qui pour lui signifie aussi, hein, parce qu'il l'a exprimé également, signifie beaucoup. Après, pour répondre au cas Mohamed Salah, clairement, lorsqu'on parle actuellement du meilleur joueur du continent, c'est son nom qui revient plus que Mané. Il y a peut-être un nom qui pourrait émerger dans la discussion. C'est un joueur qui aurait pu jouer pour l'équipe de France, qui a été le meilleur joueur de la phase de poule de Ligue des Champions, c'est Sébastien Haller. On va voir ce qu'il va faire du côté de la CAN avec la Côte d'Ivoire. Mais son problème, c'est qu'il joue avec l'Ajax Amsterdam. Mmh. Alors forcément, ce n'est pas le championnat hollandais le plus exposé sur le continent africain, ce qui fait qu'il va vraiment falloir qu'il aille très loin en Ligue des Champions pour rivaliser avec Mohamed Salah dans la discussion.
Il y aurait presque Riyad Mahrez aussi à la limite. Enfin, oui. Il fait le doublé avec l'Algérie et jusqu'où City pourra aller. C'est quand même un titulaire fort de l'équipe de Guardiola. À ne pas oublier.
Bien, merci d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. Pour rappel, la CAN, c'est du 9 janvier au 6 février 2022. Et puis d'ici là, eh bien, merci messieurs, et puis prenez soin de vous.
Ciao merci tout le monde.
Allez,
ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.